Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, César Yao.
Bonjour à tous, voici le sommaire de ce jeudi midi. Le siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana inauguré ce jeudi à Accra. Il est question entre autres d'établir un état de préparation des deux pays pour se conformer au règlement de l'Union européenne sur les produits d'importation. Un atelier de remise officielle des contributions de la société civile à l'administration en charge de la réforme du code minier ivoirien de 2014 a lieu en ce moment. Selon le directeur général des mines et de la géologie Koulibaly Seydou, il est impérieux de réformer ce code minier de 2014 pour ses insuffisances. Nous l'entendrons dans cette édition. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso voisin, trois diplomates français déclarés persona non grata pour activité subversive, annonce le ministère burkinabé des Affaires étrangères. En toute fin d'édition, l'invité de la rédaction, Junior Cardin, recevra Pulcheri Gbalé, présidente de Alternative citoyenne ivoirienne. Il sera question de la campagne de sensibilisation à l'endroit des populations dans la perspective des élections générales de 2025. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. En ouverture de ce journal, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana a désormais son siège qui est inauguré aujourd'hui jeudi à Accra. Il est, n'est-ce pas, à retenir que lors des travaux de préparation, le comité de pilotage qui fait office d'assemblée générale de l'organisation a fait quatre principales recommandations. D'abord, faire une promotion plus accrue de la consommation et de la transformation pour aider à maintenir les prix élevés du cacao. Ensuite, réexaminer le mécanisme du différentiel de revenus décent DRD à la lumière de l'évolution de la dynamique et des conditions du marché, puis établir un état de préparation des deux pays pour se conformer au règlement de l'Union européenne sur les produits d'importation. Et puis, les producteurs du café cacao de la région du Tonkpi viennent d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement à travers une marche pacifique suivie de la lecture de leur motion à la préfecture de Mans. Cela fait suite à l'annonce de la majoration du prix bord champ de la campagne intermédiaire de commercialisation du cacao fixé à 1500 francs CFA. Le point avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Les producteurs de café cacao de la région du Tonkpi donnent les raisons de leur mobilisation à la préfecture de Mans.
On est content d'être là?
Oui!
Est-ce qu'on a déjà payé cacao à 1500 en Côte d'Ivoire?
Non!
Monsieur le gouverneur, on est content du prix de 1500 et on est venu dire merci au président Alassane Ouattara.
Et non sans parler de ce fait qui fragilise ce secteur. Doit Blondé Obet, président de la fédération.
La ville de Mans est généralement utilisée par des soi-disant leaders de producteurs de café cacao pour organiser des manifestations de grève pour boycotter les projets et programmes du gouvernement en faveur des producteurs café cacao que nous sommes. Nous les producteurs, les vrais, ne saurons être un fonds de commerce pour certaines personnes qui ne défendent ni nos intérêts ni les intérêts de notre corporation. Nous disons vrais producteurs, ceux qui sont recensés et qui ont des cartes de planteurs. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, nous avons environ 1 million de producteurs de café cacao qui sont recensés.
Le préfet des régions du Tonkpi, Wamblignon Célestin, dit prendre la pleine mesure du contenu du message.
Mesdames et messieurs les producteurs et producteurs, merci d'avoir compris le message du gouvernement. Je voudrais vous rassurer en vous disant que le prix fixé par le gouvernement sera effectivement respecté. Je pense Dieu que la campagne de cette année soit l'une des meilleures campagnes. Que vous bénéficiez effectivement de ce prix-là pour vous réaliser et surtout pour entretenir vos familles.
Bien que le prix bord champ connaît une majoration, la campagne intermédiaire demeure pour l'instant morose. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Autre chose dans ce journal, Charles Blé Goudé, le président du COGEP, a crié, n'est-ce pas, à la face du monde, son ras-le-bol pour, dit-il, s'indigner contre ce qu'il qualifie de géométrie variable, selon Dr Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP. Charles Blé Goudé est le seul pro-Gbagbo dont les comptes sont encore gelés, condamné à 20 ans par la justice ivoirienne et radié sur la liste électorale. Ici le cri de cœur du docteur Patrice Saraka.
Charles Goudé, jusqu'à ce jour, est la seule personnalité politique pro-Gbagbo condamnée à 20 ans qui a ses avoirs gelés et qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Alors que, on se souvient, après la CAN, le président de la République a décidé de gracier un certain nombre de personnalités, de prendre certaines mesures d'apaisement. Charles Goudé, quant à lui, subit ce traitement particulier. Le mot qu'on puisse dire, c'est un ras-le-bol. Ce sont des interrogations parce que c'est une politique de deux poids, deux mesures. Cela est incompréhensible pour Charles Goudé. On a le sentiment qu'on veut empêcher Charles Goudé de compétir, on veut empêcher Charles Goudé de faire la politique comme il veut la faire.
Voilà, à l'instant, docteur Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP. Dans le cadre des préparatifs de la révision de la liste électorale, la commission électorale indépendante CEI procédera à la mise à jour de la cartographie électorale, opération qui va se dérouler sur l'étendue du territoire national. Suivons ici l'éclairage du docteur Landry Amoussou, enseignant-chercheur au département de droit à l'université Pelé-Forogon-Koulibaly de Korogo.
Cette cartographie s'inscrit dans la droite lignée de sa mission. L'échéance qui arrive, je crois que c'est en 2025, elle doit actualiser ses données. Il y a eu de nouveaux majeurs. Elle va également vérifier si les bureaux de vote qui étaient préalablement définis pour les anciennes élections sont encore adaptés. Elle a vraiment besoin de cette cartographie pour actualiser ses données, pour faire des propositions parfois à l'exécutif aussi. L'objectif, c'est d'actualiser et la finalité, c'est d'éviter effectivement qu'il y ait énormément de contestations parce que vous savez, en Afrique, c'est assez récurrent, nos élections sont souvent soumises à beaucoup de contestations. C'est une procédure habituelle qui permet de se rapprocher autant que faire se peut de la sincérité du scrutin.
Que vous inspire donc cette volonté des politiques de pouvoir s'impliquer?
Oui, alors le libellé même de l'institution déjà permet de clore le débat. Il s'agit d'une commission indépendante. Donc en réalité, c'est aux politiques de s'accorder, surtout dans le contexte africain, il faut qu'on s'accorde sur les modalités. Mais en même temps, nous avons des échéances politiques dans quelques années. Est-ce qu'il faut organiser continuellement des tables rondes avec l'opposition ou bien l'exécutif, ou bien mettre en place des concertations ou seulement s'intéresser aux aspects techniques? C'est énormément de questions qu'on doit régler dans peu de temps. L'idéal aurait été qu'il y ait constamment des séances de travail, mais sans pour autant freiner la mission qui a été confiée à cette commission. C'est à elle de trouver les voies et moyens pour que tout le monde s'accorde sur le bien fondé de sa mission.
Voilà, c'était Dr Landry Amoussou, enseignant chercheur au département de droit à l'université Pelé-Forogon-Koulibaly de Korogo, joint par Désiré Gapiena Ouattara. Dans le cadre des activités de plaidoyer de la société civile pour une meilleure réforme de la législation minière, l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire organise le 17 et 18 avril, c'est-à-dire en ce moment, dans la commune de Yopougon avec la commune de Cocody précisément, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande, d'un atelier de remise officielle des contributions de la société civile à l'administration en charge de la réforme du code minier ivoirien de 2014. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Lors de cet atelier, le président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, Kone Vazoumana, est revenu sur les dangers liés à l'orpaillage illégal.
Je parle de pollution de l'air, je parle de pollution de nappe phréatique, je parle d'utilisation des produits chimiques. Il y a près de 558 kg de mercure qui sont perdus dans la nature chaque année du fait de l'orpaillage.
Pour Koulibaly Seydou, directeur général des mines et de la géologie, il est
impérieux de réformer le code minier de 2014 pour ses insuffisances.
La refonte de ce code, qui va prendre en compte certains concepts qui n'étaient pas prévus, comme les mines souterraines. Dans un an, à un an et demi, on aura la première mine souterraine en Côte d'Ivoire, la mine de Yaoré à Boafli. Notre code actuel ne parle pas des mines souterraines. Le contenu local n'est pas suffisamment traité dans le code actuel. La notion de complexe minier n'est pas prévue dans ce code-là.
Sur les grands as des propositions de la société civile pour la réforme du code minier ivoirien de 2014, Kone Vazimana.
Les grands as, les engagements climatiques de la Côte d'Ivoire, l'environnement. Il y a aussi les droits des communautés qui sont faiblement pris en compte dans le code minier actuel. Et il y a le développement local sur lequel il faut se pencher. Si ces axes sont véritablement pris en compte, nous pensons qu'on aura fait un grand pas avec ce nouveau code minier.
En 2022, les chiffres pour l'ensemble des sociétés d'exploitation du secteur minier en Côte d'Ivoire étaient de plus de 1422 milliards de francs CFA contre plus de 1100 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse de 23,25%.
L'OIT, Organisation internationale du travail, veut accélérer la lutte contre le travail des enfants, notamment dans la chaîne d'approvisionnement en Afrique. Une équipe vient de se rendre dans les communautés des zones d'activité identifiées notamment à Grands Acris et à Mbato afin de recueillir des données. Un atelier de restitution a eu lieu hier, mercredi 6 mai à Abidjan. Les échos avec Junior Carnet.
Ces travaux de réflexion sur l'élimination du travail des enfants s'inscrivent dans le cadre du projet Axel Africa phase 2 qui se concentre sur les causes profondes de ce fléau. Minoru Ogasawara, conseiller technique principal de ce projet, en indique la particularité.
Le projet Axel Africa fondé sur le succès de la première phase du projet. On va vraiment développer les stratégies pour lutter efficacement contre le travail des enfants, notamment dans la chaîne d'approvisionnement en Afrique.
Mais quelles sont les chaînes d'approvisionnement répertoriées dans ce projet? Un élément de réponse avec Kofi Paul Agenor, coordonnateur national du projet Axel Africa en Côte d'Ivoire.
Nous avons ciblé les chaînes d'approvisionnement du cacao et de l'or dans deux régions du Moronou et le Planawa. Donc l'approche innovante que nous utilisons dans le cadre de ce projet Axel nous permet d'avoir la conviction que nous allons apporter une contribution significative à la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Donc dans l'orpaillage, nous comptons accompagner les structures étatiques à soutenir des mines artisanales clandestines à se formaliser en petites mines régulières, légales et qui vont donc intégrer dans leur fonctionnement les principes fondamentaux des droits au travail qui sont promus par l'OIT.
Ce projet est une opportunité, au dire de Kokora Jonas, coordonnateur du comité intersyndical de lutte contre le travail des enfants.
Grâce à l'opportunité que nous offre le projet Axel Africa, il est important que nous puissions voir les réalités au quotidien des travailleurs, aussi les solutions pour l'éradication de la pauvreté endémique qui est l'une des causes profondes du travail des enfants.
Les résultats sortis de ce projet vont servir donc à soutenir le gouvernement dans sa politique de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire.
Direction Loguiboa où, selon le président de la Chambre départementale des métiers de Divo, si c'est l'Océné, 80% des jeunes issus de milieux défavorisés équipés et mis en apprentissage d'un métier depuis 2 ans par l'ONG. L'ONG Civic Children ont abandonné faute d'argent pour suivre leur formation jusqu'à terme. Nous l'écoutons.
Il y a 2 ans de cela, nous avons fait un projet avec les ONG locales ici, appuyées par CV Children, pour la mise en apprentissage des enfants issus des familles défavorisées. Ce projet a suscité beaucoup d'espoir et le matériel, le kit a été offert par CV Children. Les maîtres formateurs ont eu au moins juste une petite subvention de 120 000 et la formation était pour 1 an, mais les artisans, la chambre avec les partenaires ont décidé de pousser la formation jusqu'à 3 ans pour que l'enfant puisse être autonome. Après nos évaluations, il va rester au moins 20 dans tous les départements, sur une centaine. Les raisons sont énormes. Le bailleur qui était sur le projet n'est plus là. Il y a un autre bailleur qui est venu et qui n'a pas de moyens. Donc, pour le suivi et l'encadrement des enfants devient de plus en plus difficile. La chambre est là, il n'y a pas de moyens. Aucune chambre départementale n'a une subvention. Nous avons adressé un courrier au conseil régional, demandant une audience avec le président pour pouvoir échanger avec lui. On nous a appelé pour nous dire que le courrier est arrivé à bon port, qu'il allait nous recevoir. Nous sommes dans l'entente.
Voilà, en l'instant même, le président de la Chambre départementale des métiers de Divo, Cissé Losséni, dans des propos recueillis par notre correspondant régional Abel César Cassin. Culture à présent, l'édition 16 du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua aura lieu du 14 au 19 mai prochain à Abidjan et à Ferke-Sédougou autour du thème La santé mentale des jeunes. Et bien pour cette année, ce sont plus de 30 artistes programmés avec de grands noms de la musique tels que Maître Gims, Gagi Séli et Yemi Alade. Des détails avec Salif Traoré dit Asalfo, le promoteur du festival.
On a la pression supplémentaire de faire de ce Femua un Femua inoubliable. Surtout quand on sort d'une canne réussie, on s'est dit côté culturel, on doit aussi relever le défi. Donc c'est un Femua qui inaugure un nouveau cycle de 5 ans et je crois qu'avec la programmation artistique qui a été faite, la Côte d'Ivoire va vivre des moments inoubliables du 14 au 19 mai prochain. De manière inédite, nous allons en faire que c'est double cette année. Donc c'est un autre environnement qui va donner naissance aussi à un autre Femua. J'invite tous les festivaliers à venir vivre cela parce que ça ne peut pas se faire rencontrer, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Le thème de cette année, c'est la santé mentale des jeunes qui est un sujet tabou mais que nous devons dévoiler. Et le Femua est là aussi, c'est pour mettre l'accent, le doigt sur certains problèmes de la société qui ne sont pas forcément vus par la population. Et pour nous, il était important de mettre l'accent sur la santé mentale des jeunes qui est quand même un sujet très important mais moins débattu dans nos pays. Donc cette année, le Femua va nous permettre de rencontrer des jeunes, de faire venir aussi des experts qui vont partager leurs expériences, qui vont donner des indications ou des recommandations qui vont permettre à ces jeunes-là de pouvoir mieux s'orienter.
Voilà, c'était Salif Traoré, dit Asalfo, le promoteur du festival des musiques urbaines d'Anoumabo Femua. Dans l'actualité internationale, 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés persona non grata sur le territoire du Burkina Faso pour activités subversives, annonce le ministère burkinabé des Affaires étrangères dans un courrier daté du 16 avril 2024. Elles sont donc priées de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures, précise cette note adressée à l'ambassade française. Sans transition à présent, l'invité de la rédaction, Junior Cardin, reçoit la présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, Pulcheri Gbalé. Ils abordent, n'est-ce pas tous deux, la question d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations dans la perspective des élections de 2025 qu'en Côte d'Ivoire entretient.
Madame Pulcheri Gbalé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On apprend que votre structure organise une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations dans la perspective des élections de 2025. Vous confirmez?
Oui, absolument, absolument. Nous allons commencer à partir de la mi-mai.
Et pourquoi cette campagne?
C'est très simple. Les enjeux de 2025 sont très importants, alors que nous avons remarqué que malheureusement, les populations sont très corruptibles et elles prêtent le flanc à tous ceux qui essaient d'acheter leur conscience. Donc nous avons décidé d'aller dans la Côte d'Ivoire profonde, rencontrer tous les Ivoiriens pour leur enseigner les critères sur la base desquels on devrait voter en principe et aussi les valeurs démocratiques afin que en 2025, les votes soient plus responsables malgré les cadeaux. La deuxième chose, c'est que notre organisation a décidé d'avoir des députés aux prochaines législatives parce qu'on n'a qu'un seul député qui joue le rôle de député en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Assalé Kimoko et ce n'est pas normal. Donc nous estimons que la prochaine législature doit avoir des députés issus de la société civile pour rendre l'Assemblée nationale beaucoup plus dynamique.
Oui, mais il n'y a qu'un seul député en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous donne donc la possibilité de le dire ainsi?
Non, mais ce sont les faits. Il n'y a qu'un seul député qui communique avec le peuple. Il n'y a qu'un seul qui nous rend compte de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et pourtant, tous les députés, en dehors de leur salaire qui est payé sur l'argent du contribuable, ils ont en plus une indemnité trimestrielle pour justement venir vers nous, nous rendre compte et nous consulter. et ce n'est pas le cas. Même les députés de l'opposition ne sont pas capables de jouer ce rôle. Il y a un problème.
Comment va se faire donc cette campagne de façon concrète?
De façon concrète, nous allons faire un programme et visiter vraiment toutes les régions du pays. On ira même dans les campements, mais en tout cas, elle sera nationale.
Et sur le terrain, qui seront vos interlocuteurs directs?
Particulièrement les jeunes, les femmes et puis les associations. Tous ceux qui ont une influence sur les autres.
Et puis, Cédric Ballet n'a pas peur qu'on la traite déjà de mettre les pieds dans le plat par rapport aux élections qui ne sont pas encore annoncées?
Si on avait peur, on ne s'y aventurerait pas. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Nous, on a coutume de dire qu'il n'y a rien qui ne soit politique dans cette vie. Même le développement est politique. La gestion familiale est politique. Donc, nous, on est fiers de faire la politique citoyenne. On n'est pas dans la politique politicienne. Et il est de notre devoir de sensibiliser les populations et c'est ce que nous allons aller faire. Ce n'est pas une campagne pour aller présenter un candidat.
Et quelle est la fourchette de temps pour cette campagne?
On commence la mi-mai 2024, on finit fin mars 2025.
Et en attendant, quel est le message que vous avez à l'endroit des populations que vous allez visiter d'un moment à l'autre?
Nous voulons dire à ces populations qu'il est temps que les gens comprennent qu'en dehors des partis politiques, il y a d'autres acteurs qui ont leur place dans le jeu politique. Notamment la société civile. Nous, on nous appelle société civile engagée. Ça veut dire que tout ce qui engage l'intérêt du peuple, que ce soit des sujets politiques ou sociaux, nous nous y intéressons et nous prenons surtout position. Il y a des gens qui ont choisi l'option de la neutralité et nous, nous estimons que la neutralité, dans un contexte où il y a beaucoup d'injustice, c'est une forme de lâcheté. Donc, nous voulons dire à ces populations-là que nous sommes là pour les aider à être plus responsables, pour les éduquer aux valeurs démocratiques, aux critères qui devraient guider le choix de quelqu'un. Après, c'est elle qui décide.
Voilà. Et aux autres partenaires donc des élections en Côte d'Ivoire?
Aux partis politiques, nous voulons leur demander de se réveiller, surtout l'opposition. On ne les comprend pas. Nous avons traversé des décennies de crise et il y a encore beaucoup de questions qui sont en suspens par rapport aux élections, notamment le découpage électoral. Et là, la CEI a annoncé que tout le mois d'avril 2024 sera consacré à la mise à jour de la cartographie électorale. Et on ne voit pas l'opposition réagir. Alors que c'est maintenant, en 2024, que nous devons adresser toutes les questions qui pourraient constituer des sources de conflits en 2025. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit le pouvoir qui convoque un dialogue politique. Le dialogue politique peut être aussi suscité par l'opposition. Et nous pensons que c'est en 2024 là que toutes les questions fâcheuses devraient être réglées. Au pouvoir, nous voulons demander un peu plus de démocratie. Nous, en tant que société civile, là, on joue notre rôle. Quand on écrit aux institutions étatiques par rapport à certaines thématiques, on n'obtient pas de réponse. Ce n'est pas comme ça que l'administration devait marcher. La moindre des choses, quand on reçoit un courrier, c'est de faire un accusé de réception et de répondre. Ils ne répondent pas au courrier. Donc, quand nous, on n'a pas d'interlocuteur pour aborder les questions sérieuses, on est obligé de manifester. Donc, on voudrait que vraiment l'État et l'administration s'ouvrent au jeu démocratique. Ça pourrait les aider à mieux gouverner.
Plusieurs Ballet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Pulchérique Balé, la présidente de Alternative Citoyenne Ivoirienne sur la campagne de sensibilisation des populations dans la perspective des élections de 2025. Elle était avec Junior Cardin. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel de l'essentiel. Le siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana inauguré ce jeudi à Accra. Il est question entre autres d'établir un état de préparation des deux pays pour se conformer aux règlements de l'Union européenne sur les produits d'importation. Un atelier de remise officielle des contributions de la société civile à l'administration en marge en charge de la réforme du code minier ivoirien de 2014 a lieu en ce moment, selon le directeur général des mines et de la géologie Koulibaly Seydou. Il est impérieux de réformer le code minier de 2014 pour ses insuffisances. Enfin, dans l'actualité internationale au Burkina Faso voisin, trois diplomates français déclarés persona non grata pour activité subversive, annonce le ministère burkinabé des Affaires étrangères. Fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix, prochain rendez-vous 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Ghislain Koulibaly.
Bonjour à toutes et à tous. C'est le Conseil des ministres d'hier qui rythme le ton des infos aujourd'hui avec plusieurs décisions. Commençons avec Fraternité Matin qui y consacre entièrement sa une. On peut lire en